Il est facile de repérer une bonne boulangerie ou un bon marchand de vélo, mais une bonne librairie, on pourrait penser que c'est celle où les chances sont les plus élevées de trouver le livre qu'on cherche. C'est un peu vrai, mais pas tout à fait, car c'est faire un amalgame et même une confusion entre bonne et grande librairie. Celle qui a beaucoup de place, beaucoup de fonds, beaucoup de titres, mais qui n'est pas forcément bonne. On pourrait même dire que la taille n'est pour rien dans l'affaire. Ce qui fait la qualité d'une librairie se décèle dès la vitrine. Si elle donne un sentiment de cohérence, s'il y a une logique claire dans le choix, entrez. C'est une bonne librairie. Celui ou celle qui a composé cette vitrine a su créer un réseau entre les auteurs, entre les titres, un réseau mental qui vaut bien tous les réseaux sociaux. En entrant, on trouvera sans doute sur les tables d'autres livres, eux aussi interconnectés. Comme l'écrit Roland Alberto, libraire à Marseille, l'objectif auquel tout libraire doit tendre, c'est une librairie où chaque livre est relié aux autres par un fil fait de rencontres, de lectures, de spéculations, d'oppositions, d'erreurs, d'errements et de notes de bas de page. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le métier de libraire est l'un des plus personnels qui soit. Et si aucun point de vue n'émerge de la promenade autour des tables, alors on est dans une boutique où l'on vend des livres et non dans une librairie.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Naître à Paris ne fait pas forcément de vous un vrai Parisien. Pour le dire à la façon de Simone de Beauvoir, qui passa sa vie entre les 6e et 14e arrondissements sur la rive gauche, on ne naît pas parisien, on le devient. Et il faut pour cela marcher beaucoup, observer tout autant, pouvoir reconnaître au premier coup d'œil la bonne librairie, le vrai boulanger, le café où le comptoir reste accueillant, les traces encore fraîches sur les façades des impacts de mitraille, des soubresauts de l'histoire. Aimer flâner sur les pas de Balzac ou de Simenon à la recherche du Paris d'Adjet et de Doineau, et surtout, exactement comme avec les membres de sa famille, s'octroyer le droit, comme un devoir sacré, de dire beaucoup de mal d'une ville abîmée tout en la défendant bec et ongles lorsque d'autres se permettent de l'attaquer. Éric Hazan, éditeur, écrivain, est un infatigable arpenteur de Paris, de ses rues comme de sa mémoire. Après pas moins de 6 livres sur le sujet, dont les magnifiques L'invention de Paris en 2012 et Une traversée de Paris en 2016, il nous en livre un 7e. Le tumulte de Paris, édité chez lui, à la Fabrique. Sur le modèle qu'il ne cesse de relire des petits portraits vifs et colorés de Louis-Sébastien Mercier, il nous entraîne d'un pas alerte à travers une ville qu'il entend bien cette fois-ci défendre de l'éternel procès en muséification qu'on lui dresse. Car si certains quartiers, rive gauche et à l'ouest, sont désormais figés par un embourgeoisement achevé, d'autres, au nord et à l'est, demeurent toujours grouillants de vie, de mélange, de colère et de parfum. Érudit, délicieux, avec ce qu'il faut de mauvaise foi et de drôlerie, ce petit livre nous invite à réarpenter nos rues pour combattre le confinement de nos pensées. Bonsoir Éric Hazan.
Bonsoir.
Bienvenue, on est toujours heureux de reprendre cette conversation sur Paris avec vous, jamais lassé alors de Paris, et surtout, pour une fois, on ne vous attendait pas dans un plaidoyer pour Paris, alors que tout le monde dit que cette ville ne ressemble plus à ce qu'elle a été. Vous, au contraire, vous pensez qu'elle a des beaux restes ?
Moi, je pense que, évidemment, que Paris n'est plus ce qu'il était ou ce qu'elle était, je ne sais pas comment on dit.
Une ville au féminin ou Paris au singulier, les deux, en général ?
C'est vrai et tant mieux. Une ville, ça bouge, ça vit, ça se transforme. Alors, à nous de veiller à ce que cette transformation ne soit pas dans le sens du désastre. Cela étant, quand vous disiez, pour commencer, qu'il n'y a plus de Paris populaire que dans le Nord et dans l'Est, c'est vrai oui et non. La traversée de Paris, donc, que vous m'avez fait l'amitié de citer, c'est un trajet qui va d'Ivry à Saint-Denis. Donc une traversée en plein milieu. Eh bien, tout le long, elle est dans des quartiers populaires. Je pense le quartier des gares. n'y a pas plus central que le quartier, la gare du Nord, la gare de l'Est. C'est extrêmement central, c'est extrêmement populaire. C'est pas vrai de dire que Paris n'est plus populaire que dans un petit coin du Camembert. Non, non, non. La rive gauche est différente. La rive gauche, c'est vrai. Elle a été frappée d'un mouvement catastrophique qui l'a transformée en une espèce de mall commercial géant. Elle a changé de population. Je crois que ça a commencé après 68, quand la loi Edgar Faure, vous vous souvenez de ça peut-être ?
Eh oui, là je m'en souviens très bien.
a vidé le quartier latin des étudiants. Il y en a encore, mais il y en a 10 fois moins qu'il n'y en avait en 1968-69. Et ces étudiants, ils créaient une atmosphère. C'était vraiment une jeunesse magnifique. Et aujourd'hui, cette jeunesse, elle est éclatée dans aux quatre coins de la banlieue.
Mais c'est sans doute d'ailleurs, Éric Hazan, vous avez mis le doigt dessus, c'est venu après 68, l'éclatement des universités, comme si le pouvoir politique avait compris qu'il fallait sortir de ce regroupement de dangereux agitateurs qui dépavaient les rues pour un oui, pour un non. On a bitumé les rues pavées du quartier latin et on a envoyé les étudiants le plus loin possible de ce quartier.
Et dans des coins contrôlables.
On va écouter d'ailleurs ce que vous dites de cette rive gauche dans votre livre « Le tumulte de Paris ».
Vers quel moment la rive gauche a-t-elle basculé pour devenir le morne super-étalage qu'elle est aujourd'hui ? Je situerai le tournant dans les années 1970-1980. Tout d'abord, la réforme de l'université concoctée par le sémillant Edgar Faure a fait éclater aux quatre coins de la banlieue l'extraordinaire concentration de la jeunesse étudiante qui occupait le quartier latin et y faisait régner gaieté et animation malgré le gaullisme ambiant. Tous les étudiants n'habitaient pas là, mais tous, toutes venaient y travailler, y flirter, y boire des coups. La rue Soufflot, la rue des Écoles, le jardin du Luxembourg, le carrefour de l'Odéon, c'était leur domaine. Il reste bien sûr Jussieu et Sancier, mais il faut montrer ses papiers pour entrer à la Sorbonne. Le nom même de quartier latin a perdu son sens originel. Mais pendant ces années-là, c'est le cœur tout entier de la rive gauche qui a vu sa population changer. Les vieux psychanalystes, les vieux écrivains, les derniers tenants de l'existentialisme sont morts, et ceux qui restaient n'ont plus été capables de payer des loyers montés en flèche. Ils ont été remplacés par des gens plus riches, mais dont la culture et l'art n'étaient pas la principale préoccupation. À la librairie La Une, boulevard Saint-Germain, à l'angle de la rue Saint-Benoît, aujourd'hui boutique Louis Vuitton, on tombait autrefois dès l'entrée sur une grande table carrée où étaient présentées les dernières nouveautés en philosophie, en politique, en théorie littéraire, en sociologie. En un coup d'œil, on était au courant. Or, un jour, j'ai vu à mon grand étonnement cette même table occupée par des romans à la mode du moment. La gérante m'a expliqué: ordre de la direction, la population du quartier a changé, il faut leur présenter ce qu'ils aiment.
Éric Hazan, dans les 6 précédents livres sur Paris que vous avez écrits, c'était des traversées de Paris à la fois historiques, notamment sur les traces des révolutions, pas seulement la Commune, mais celle de 1848 que vous aimez beaucoup, et des traversées de Paris littéraires, sur les pas de Balzac notamment. Ce petit livre, Le tumulte de Paris, il ressemble davantage à ce que Louis-Sébastien Mercier, au XIXe siècle, nous a donné, c'est-à-dire des petites réflexions sur le vif, des croquis. Vous auriez un crayon à la main, vous auriez dessiné. C'est vraiment Mercier qui vous a inspiré petit livre.
Oui, je le lis et le relis.
C'est un délice, il faut dire que c'est pas du tout en poulet, c'est...
Non, non, non.
C'est
non,
sur
non.
Le vif.
Louis-Sébastien Mercier, c'est... On peut pas lire l'intégralité de ce qu'il a écrit, parce que c'est 40 volumes. Donc, faut faire des choix. Mais c'est délicieux, quoi. C'est drôle, c'est insolent, c'est actuel, c'est vraiment un ami. C'était inconventionnel, Louis-Sébastien Mercier. Modéré, mais inconventionnel quand même.
Mais d'ailleurs, on n'est pas du tout dépaysé quand on lit ce tumulte de Paris. Comment est-ce que vous l'avez conçu? On a l'impression que, à l'inverse des autres où il y avait cette documentation, ces références à la littérature, à l'histoire, aux événements, là, vous vous êtes fait plaisir et pourtant, vous l'avez écrit pendant le confinement. Donc, c'est la mémoire du piéton de Paris qui est revenue pour vous, Éric Hazan.
Oui, ce premier confinement, j'avais une idée tous les jours. Je l'ai. D'ailleurs, chacun de ces petits chapitres-là est écrit à peu près en une journée et j'aurais pu continuer. Mais je me suis arrêté parce qu'il fallait pas que ça devienne un pavé, ça aurait été idiot. À vrai dire, je sortais beaucoup. Je suis retourné, j'ai refait les visites et les itinéraires de ce que j'écris dans le livre. Je peux pas écrire de mémoire. Enfin, j'écris pas sur place. Je sais pas écrire avec un carnet comme faisait Zola. Mais je regarde, éventuellement je prends 2-3 notes pour pas oublier. Et puis je rentre et dans la foulée, j'écris.
Mais il y a des itinéraires où on est plus sûr de vous trouver. Puis il y a surtout votre ancrage actuel, Éric Hazan, votre maison d'édition, vos déambulations, votre vie même, elle est à Belleville.
Oui.
Et dans ce livre, d'ailleurs, vous revenez. Il y a quand même une certaine nostalgie de, notamment, qu'ont tous les Parisiens, sur ces endroits de la capitale qui ont été massacrés, c'est-à-dire démolis et reconstruits d'une manière hideuse. Et c'est l'époque Pompidou, et ensuite suivi par Giscard. Dieu sait si ça a été bétonné, démoli et bétonné. Et il y a tous les hauts de Belleville, la place des Fêtes aussi, dans le 20e, tous ces lieux qui ont perdu la mémoire de ce que c'était, ces petits quartiers de Paris.
La place des Fêtes, c'est vrai, c'est particulièrement emblématique. C'était une petite place ronde, petit diamètre, de province. C'est simple, les restaurants avaient encore des rondes serviettes avec les noms des clients. Ça se fait plus depuis avant-guerre. Et c'est vrai que le massacre du Haut de Belleville, à l'époque pompidolienne, c'est un des pires attentats urbanistiques qui a été fait à Paris, Haussmann compris. Haussmann n'aurait pas fait ça. Haussmann, on peut dire qu'il a fait pire à l'île de la Cité. À l'île de la Cité, c'était 17 églises, je sais pas combien de rues. Il faut se souvenir que le tout début des Mystères de Paris de Gensu se passe dans un tripot où Rodolphe manque de se faire égorger par le Chourineur.
Par le Chourineur.
Où il est, ce tripot? Il est devant la porte de Notre-Dame. C'est pour ça, d'ailleurs, que je propose dans le livre...
C'est une proposition très intéressante. Alors, vous proposez de raser la préfecture de police et l'Hôtel-Dieu.
Oui.
Carrément.
De faire un grand espace entre les deux bras de la Seine, avec d'un côté le palais de justice, celui-là on le garde, et de l'autre Notre-Dame. On la garde aussi.
Et qu'est-ce qu'on met à la place?
Alors, on organise la construction d'un vrai quartier par des gens qui sont du métier, c'est-à-dire, je dirais, les charpentiers et les maçons du 93. Pas tout seul, guidé par des architectes respectueux et qui n'est pas un égo comme ceux que nous connaissons aujourd'hui.
Oui, ça c'est un peu compliqué peut-être à trouver.
Il y en a. Oui. Par définition, n'ayant pas un égo démesuré, ils font pas parler d'eux. Si, il y en a.
Alors, Éric Hazan, il y a dans vos promenades, évidemment, des échos pour nous, d'autres promenades, notamment celle de Georges Perec dans ce quartier, et de son ami Robert Bobert, qui, caméra au point, est allé filmer les derniers soubresauts de la rue Villain. Pour le plaisir, on va se promener également avec Robert Bobert sur les traces de Georges Perec.
On pourrait commencer comme cela. C'était une petite rue de Ménilmontant à Paris, dans le 20e arrondissement. Elle faisait 243 mètres de long et 8 mètres de large. Elle commençait à la hauteur du 29 rue des Couronnes et, en esquissant vaguement la forme d'un S inversé, montait jusqu'à des escaliers qui menaient à la rue Piat au numéro 21. Il y avait là une maison à tourelles avec des lucarnes rondes appelée la maison du meunier. Sur le trottoir, au bord de la balustrade, il y avait aussi un curieux réverbère formé de deux becs de gaz coudés surmontés d'un lampadaire. Peut-être parce que de ce carrefour on peut se plonger dans le plus beau panorama de la ville, on y tourna avant la guerre un film avec Harry Bore. Plus tard, on y tourna encore Casque d'or et Jules et Jim, et aussi le plan final d'Un homme qui dort. Cette rue a été classée en 1863. Elle s'appelait rue Villain, du nom d'un architecte, propriétaire des terrains du quartier, et maire en 1848 de l'ancienne commune de Belleville. Un peu plus de 100 ans plus tard, la rue fut classée îlot insalubre. Le 4 mars 1982, la pioche des démolisseurs qui depuis une douzaine d'années avait entrepris la destruction de la rue Villain achevait d'abattre les numéros 16, 18, 20, 22 et 24. La rue Villain n'était plus qu'un espace déserté au pavé 10 juin, bordé de trottoirs informes et limité par des espèces de palissades en ciment. Mais on pourrait aussi commencer comme cela. Dans un espace délimité à l'est par la rue Piat, en bordure de la zone d'aménagement concertée dite ZAC, appelée secteur Faucheur en Vierge, et à l'ouest par la rue Julien Lacroix, en bordure de la ZAC, appelée secteur Bisson-Palicao, sur une des collines les plus fortement inscrites dans le paysage de Paris, 27 mètres de dénivellation, s'étend, sur 3,8 hectares environ, un espace vert dont la réalisation vient d'être achevée.
Et voilà, Éric Hazan, comment faire ressurgir le passé avec, en citant simplement les noms des rues disparues, les noms des numéros des maisons, et puis passer tout de suite à la typologie administrative, îlots, ZAC. Voilà comment on a transformé ce quartier de Paris au lieu de le réhabiliter.
Oui, je dois dire que le parc de Belleville qui a succédé à la rue Villain, comme le disait la dernière phrase de ce que vous avez fait citer, ce parc de Belleville est bien.
Il est beau, oui.
Il est beau, il a bien vieilli.
Ouais.
C'est un désastre qui n'a pas tourné en catastrophe absolue. Ça a donné un espace vert qui est plus qu'un espace vert, qui est un endroit du quartier populaire.
Oui, qui a été réinvesti par la population. Mais en même temps, en démolissant tout ça, c'est la mémoire même, la mémoire de Paris, la mémoire ouvrière, la mémoire de ceux qui ont bâti Paris, parce que les ouvriers qui bâtissaient, ils habitaient là souvent.
C'était aussi un grand quartier d'immigration, juive et arménienne. Les juifs plutôt dans l'habillement, dans les chemates, et les arméniens plutôt dans le cuir, dans les chaussures. Tous ces gens-là ont été massacrés pendant la guerre et il n'en reste plus rien que des plaques, souvent très émouvantes, juste quelques noms. Et on peut dire que, d'une certaine manière, ça reste un quartier de grande immigration, plus les mêmes, c'est des Chinois, des Arabes, des Noirs, mais heureusement, c'est pas un quartier blanc.
Et puis il y a encore, et on le voit bien dans votre livre « Le tumulte de Paris », ces haltes nécessaires pour le piéton et pour l'amoureux de Paris, ce sont les cafés, à condition de ne pas se tromper de trottoir.
Certains cafés parisiens sont dits « branchés », sans que le mot soit clairement défini. Ce ne sont pas les plus chics, le niveau d'élégance n'est pour rien dans l'affaire. Ce qui fait un café branché, ce ne sont ni le décor, ni le prix des consommations, mais la clientèle. Récemment encore, il y avait comme un cas d'école à l'abouchement de la rue Desnoyers dans la rue de Belleville. Deux cafés face à face. À gauche, aux Folies, café archi-branché depuis au moins 15 ans, où les attablés ont presque tous moins de 30 ans et sont blancs dans leur ensemble, ce qui détonne dans l'une des rues les plus multicolores de Paris. Il y a parmi eux des jeunes gens et de jeunes filles sans travail, d'autres qui gagnent leur vie dans une profession plus ou moins artistique, design, architecture, cinéma, photographie, d'autres encore qui sont des étrangers, surtout américains, installés dans le quartier ou de passage. Les quelques noirs et arabes sont dispersés, rarement en groupe. Et les Chinois sont rares dans cet établissement implanté au sein du Chinatown qui est depuis longtemps le bas de la rue de Belleville. on boit presque exclusivement des bières et en groupe. Il est rare de voir un isolé lisant le journal dans son coin. Garçons et filles sont habillés, coiffés et chaussés de façon très codée, variant selon les saisons, ce qui en fait une population homogène dont les membres ont entre eux une ressemblance frappante. Si l'on est bienveillant, c'est une jeunesse réunie qui s'amuse. Sinon, c'est une assemblée de clones qu'on retrouve avec quelques nuances dans tous les cafés de la même espèce. En face, le vieux Saumur était, à l'imparfait car il a été démoli en même temps qu'a été détruit par la mairie de Paris le segment attenant de la rue des Noyers. Un café à l'ancienne, moins de monde, moins de bruit. Des vieux du quartier, des travailleurs arabes, des clients isolés ou par couple. Les rendez-vous qu'on s'y donnait étaient paisibles. On pouvait y lire et même écrire tranquillement. Il y aurait pu y avoir là, comme autrefois, un jukebox ou un flipper. C'était un havre comme il en existe encore beaucoup. Et pourvu que ça dure.
Éric Hazan, dans votre livre « Le tumulte de Paris », vous donnez le petit détail qui suffit à distinguer le vrai café de l'établissement où l'on peut boire. C'est le comptoir. Un café, c'est un comptoir. Alors, en ces temps de confinement, c'est vrai qu'on parle un peu au passé. Ça fait un an quasiment qu'on n'a pas mis les pieds au café. Mais c'est vraiment... Il en reste encore dans Paris.
Oui, oui. Mais les établissements qui ont enlevé leur comptoir, qui n'en ont jamais eu, ils peuvent pas prétendre au titre de café. C'est pas vrai. C'est vraiment le pouvoir s'accouder au comptoir et boire un petit noir, c'est ça, le café parisien. C'est d'ailleurs une spécificité de Paris. À Rome, on peut boire des cafés formidables, mais ça ressemble, les endroits ressemblent pas du tout. Ils sont souvent carrelés de blanc, souvent très éclairés de façon assez brutale et petits. On s'assied pas, on boit debout comme au comptoir, mais c'est très différent. À Londres, il y a rien de tel. Non, il y a rien de tel ailleurs. Dans certaines villes de province, oui, françaises, mais qui ont souvent un côté imitation de Paris.
Des milliers, des milliers, des milliers d'années ne sauraient suffire pour dire la petite seconde d'éternité. Où tu m'embrassais, où je t'ai embrassé, un matin dans la lumière de l'hiver, au parc Montsouris, à Paris. À Paris, sur la terre qui est un astre. À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines de cœur qui sourit, tout ça parce qu'il s'aime à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournées font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête, et comme deux collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé. Y a toujours des taxis en maraude qui vous chargent en fraude avant le stationnement où y a encore l'agent des taxis. Au café, on voit n'importe qui, toi, n'importe quoi, qui parle avec ses mains, qui est là depuis le matin. Au café, il y a la Seine, à n'importe quelle heure, elle a ses visiteurs qui la regardent dans les yeux, ce sont ses amoureux. À la Seine, et il y a ceux qui ont fait leur lit près du lit de la Seine et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la Seine. Et les autres,
ceux qui en ont assez parce qu'ils en ont vu trop et qui veulent oublier, alors ils jettent à l'eau. Mais la Seine, elle préfère voir les jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son eau jouer aux caravelles sur la Seine. Les ennuis, il n'y en a pas qu'à Paris, il y en a dans le monde entier. Oui, mais dans le monde entier, il n'y a pas partout Paris. Voilà l'ennui à Paris. Au 14 juillet, à l'allure des lampions, on danse sans arrêt au son de l'accordéon dans les rues. Depuis qu'à Paris, on a pris la pastille, dans chaque faubourg, à chaque carrefour, il y a des gars et il y a des filles qui sans arrêt sur les pavés, nuit et jour, font des tours et des tours à Paris.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
La première chose qui frappe, c'est que plus Paris s'engorge, moins elle a d'habitants. C'est-à-dire, Paris a moins d'habitants qu'il y a un siècle. Autrement dit, le problème de Paris, il n'est pas détachable du problème de la banlieue. Il est pas, le problème du centre de Paris n'est pas détachable de celui de sa périphérie. Celui de la périphérie de Paris n'est pas détachable de celui de la petite couronne. Celui de la petite couronne n'est pas détachable de celui de la grande couronne. Plus on remplit n'importe comment la banlieue, plus on fait des désastres pseudo-urbains en banlieue, plus aussi on nuit à la qualité de vie dans le centre d'une ville. Parce qu'on va arriver à cette chose que Paris sera, pour des raisons de spéculation et pour des raisons de mauvaise politique, que Paris sera une ville de résidence, de luxe, d'une part, de tourisme, d'autre part, et d'activité tertiaire. Or, ce qui fait la vie d'une ville, ce n'est absolument pas, et ça ne peut absolument pas être la réunion de ces trois activités. Donc, Paris est victime du zonage.
Éric Hazan, dans votre livre Le tumulte de Paris, vous citez Jean-Christophe Bailly que l'on vient d'entendre, et vous, comme lui, vous parlez de cet enfermement de Paris, autrefois dans le mur des fermiers généraux, maintenant à l'intérieur du périphérique. Et c'est vrai qu'il y a toujours ces débats sur qu'est-ce qu'on doit faire, couvrir le périphérique, pas le couvrir, comment on relie la banlieue, la proche banlieue à Paris. Et là-dessus, tout le monde s'étripe. Et est-ce que vous avez, vous, des envies particulières, vous qui y avez traversé maintes fois ces barrières d'autrefois?
Je pense que le périphérique, il faut le détruire. Mais ça suffit pas. La preuve, par exemple, à la Porte des Lilas, on l'a enterré. On ne le voit plus, il n'y en a plus. Eh bien, ça reste désastreux parce que entre les dernières maisons de Paris et les premières maisons des Lilas, il y a un grand espace qui est très difficilement comblé par une espèce de square poussiéreux et par une espèce de cinéma noir affreux. Ce qu'il faut, c'est détruire le périphérique et construire entre Paris et les communes limitrophes des rues qui soient pas des rues barrières, qui soient des rues radiales, qui soient des rues qui mènent de Paris à la banlieue, pas qui barrent. Je pense que construire des rues, ça n'est plus tellement c'est pas là où les architectes et urbanistes actuels sont les plus forts. Il y a qu'à voir, quand on leur donne un bout, ils font l'avenue de France. Ils font des rues où il y a que des rhumes à attraper. Des rues qui n'en sont pas. Il faut, ça doit être très segmenté une rue. Hein. Quand Henri IV a fait le premier mouvement d'urbanisme concerté, la place Dauphine, le Pont Neuf, la rue Dauphine, qui était la plus large de Paris, elle avait 6 mètres de large, il n'a pas fait ça d'un seul coup. Il n'a pas donné ça à une personne. C'est un travail collectif, lent. Je crois que lent. C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça demande des investissements. Et les investisseurs, ils veulent un retour sur investissement. Et ils le veulent pas dans 20 ans, ils le veulent tout de suite. Donc, Il faut se dépêcher. Donc, faut construire tout droit. Il faut construire des rues dessinées sur ordinateur qui n'ont plus rien de rue humaine. Je crois que la difficulté, elle est là. Il ne s'agit pas... Bon, je pense que démolir le péril, tout le monde est à peu près d'accord. Mais il faut urbaniser cette grande zone entre la fin de Paris et le début des communes qui le bordent.
Et en fait, dans votre livre, souvent, quel que soit le quartier, le périphérique aussi, mais même, on parlait tout à l'heure de l'île de la Cité, vous avez cette proposition qui est intéressante et que je n'ai jamais lue ou entendue ailleurs que sous votre plume, Éric Azan, c'est de ne pas tant prendre des architectes que de prendre des urbanistes, mais pour refaire des petits quartiers, en fait, comme on le faisait autrefois, c'est-à-dire une rue, des échoppes, des maisons, et puis quelqu'un d'autre s'occupe d'à côté.
C'est ça.
Et au fond, la différence, c'est ce qui fait le charme des rues.
Bien sûr, bien sûr. Même quand il y a une apparente symétrie, la symétrie, elle n'est qu'apparente. Si on prend, par exemple, le magnifique départ de la rue de l'Odéon, à partir du carrefour de l'Odéon, avec le théâtre dans le fond, elle est bordée par deux immeubles, Louis XVI... qui ont l'air jumeaux, mais en fait ils ne le sont pas. Ils sont tout à fait différents l'un de l'autre. Cette différence dans la régularité, c'est ça la difficulté.
Alors ce qui est terrible depuis un an, où on ne peut effectivement plus avoir de lieu de convivialité, c'est de marcher masqués tous dans des rues où on a peur des autres, qui peuvent être porteurs d'un virus dangereux, et puis de voir la multiplication des gens qui, eux, n'ont pas le choix et qui vivent dans la rue. La misère à Paris, vous en parlez également, Éric Azan.
Se lancer dans une typologie de la grande misère parisienne, ce serait offensant pour ceux qui dorment par terre sur des cartons et trouvent à se nourrir dans les poubelles. C'est sur nous-mêmes, les non-mendiants, que la réflexion mérite d'être menée. Une catégorie particulière comprend ceux qui ne donnent rien, jamais, pas même une cigarette. Ce ne sont pas forcément des êtres sans cœur, ils ont des arguments. La pitié est une passion triste et la charité une abjection. Ce n'est pas en distribuant quelques euros au hasard que l'on lutte contre la misère. Ceux qui le font se donnent bonne conscience pour pas cher. Tout cela est juste, et ceux qui continuent malgré tout à fouiller dans leurs poches pour répondre à la demande le savent très bien. Mais en dehors même des réticences théoriques, reste la question, à qui donner? À tous ceux qui tendent la main, ce n'est pas possible. Le don ne consiste pas seulement à mettre dans cette main, ou dans un gobelet, une écuelle, une casquette, une pièce de monnaie. Pour donner au geste un minimum de sens, il faut l'accompagner de quelques mots, d'un sourire, d'une tape sur l'épaule, bref, de petits signes manifestant une appartenance commune au groupe des êtres humains. Or, de tels gestes ne sont pas faits pour être répétés à tous les carrefours. Il faut donc faire des choix. Chacun les siens. Je parlerai des miens. J'ai eu plusieurs clients attitrés. Sur les quais de la ligne 11 à Belleville, un homme d'une cinquantaine d'années, noir africain, qui joue de la mandoline, ou plutôt égrène des notes tout doucement sans dégager de mélodie, courbé sur l'instrument, sans un regard pour les usagers. Les rares fois où je l'ai vu déplier, j'ai vu qu'il est très grand et qu'il boite. Une autre à son siège social sur un banc, près de la grande poste 1930 de la rue des Archives. La première fois que j'ai vu cette vieille dame, j'ai été saisi par la couleur de ses yeux, de ceux qui projettent du bleu tout autour d'eux. Quand je suis dans le quartier, je fais un détour pour voir si elle est à son poste et bavarder un moment.
Éric Azan, parler avec des gens dans la rue, c'est vrai que ça devient de plus en plus rare. Vous arrivez à maintenir ça, les rencontres
Je parle aux gens dans la rue, oui. Et c'est vrai que, généralement, c'est bien pris, généralement, les gens répondent, et ce serait quand même terrible d'arriver à une ville, mais derrière les masques.
Malheureusement, c'est bien ce qu'on voit en ce moment, c'est bien comme ça.
C'est bien comme ça, oui, c'est vrai.
Les gens ne se regardent plus, s'évitent, ne se parlent plus, sinon sur un ton agressif. Paris a beaucoup changé. Depuis l'époque où vous avez commencé à écrire sur Paris, Paris s'est abîmé dans l'âme. Plus on parle là des rues, des monuments, des quartiers abîmés, mais on a l'impression, Éric Azan, qu'il y a quelque chose de l'âme de Paris qui est en train de s'en aller. Vous ne le sentez pas, vous. Vous êtes optimiste.
Je vais vous dire le fond de ma pensée. Si le capitalisme reste solide sur ses bases, c'est cuit. Je pense que Paris s'en relèvera pas, et tout le reste s'en relèvera pas non plus, et le réchauffement va continuer, et il y aura d'autres épidémies. Si le capitalisme néfaste n'est pas abattu, il n'y a pas beaucoup d'espoir. En revanche, l'espoir est très grand si on arrive à le mettre à bas. Et à ce moment-là, beaucoup de choses qui nous semblent aujourd'hui irréversibles, eh bien, nous les reverserons, nous les renverserons, nous reviendrons à une ville amicale, calme, saine, belle et affectueuse.
Oh, Éric Azan, qu'est-ce qu'on a envie de vous croire ? Eh bien, que Dieu qui n'existe pas vous entende, mon ami. Merci à vous, Éric Azan. Lisez ce très joli « Le tumulte de Paris » qui vient de paraître aux éditions La Fabrique. C'est un bonheur de vous suivre dans ces rues et ces quartiers, Éric Azan, et au prochain livre qui sera le 8e sur Paris. On vous attend de pied ferme. Allez, portez-vous bien.
Inch'Allah.
Au revoir.
Au revoir.